Europe 1.
Europe 1 soir.
19h-21h. Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous avez l'habitude maintenant d'Europe 1 soir à 19h jusqu'à 21h. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat autour des invités pour tout savoir. Il est 19h sur Europe 1. Au sommaire, il n'était pas un écrivain, mais mieux que quiconque, il les faisait valoir. Bernard Pivot s'est éteint ce lundi, chez lui, à l'âge de 89 ans. Le créateur d'Apostrophe, président du jury Goncourt, a traversé les décennies en chantre de l'écriture, portrait dans un instant. Et nous y reviendrons également à 19h50. L'actualité, c'est aussi bien sûr la visite du président chinois en France, Xi Jinping reçu par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. C'est donc la France, mais aussi l'Europe qui le reçoit ainsi. Compte rendu de cette journée à suivre. Et nous inviterons le géopoliticien Cyril Brett tout à l'heure après 20h. Dans ce journal également, François-Xavier Bellamy, victime d'une cyberattaque, un groupe de hackers potentiellement lié au gouvernement chinois. Les frères musulmans tissent leur toile jusque dans les institutions, notamment européennes. Le point à suivre, et nous inviterons dans 15 minutes l'écrivain et journaliste Mohamed Sifaoui. La filière auto reçue par Bercy, qui s'apprête à vendre 800 000 véhicules électriques par an d'ici 2027. Explication dans le journal. Et nous recevrons Xavier Oran, délégué général de Mobilience, la filière automobile, d'ici une demi-heure. Le temps, la tendance. Bonsoir Marlène Durem.
Bonsoir Pierre. Instable demain avec encore quelques averses, plus nombreuses au sud de la Loire, voire orageuses sur certains massifs montagneux. Et les régions méditerranéennes resteront au sec, le tout dans une ambiance qui va rester fraîche pour la saison.
Le détail à la fin du journal. 20h30, l'interview politique, comme tous les jours dans Europe 1 Soir. Aurore Berger, ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle a présidé ce matin les Assises nationales de lutte contre l'antisémitisme, avant de participer ce soir au dîner du CRIF. Nous évoquerons Colombe, 60 ans, son témoignage a été visionné plus de 5 millions de fois. On lui a demandé de ne plus être bénévole au Resto du Cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle a participé à un meeting électoral du RN. Elle a été réintégrée au Resto du Cœur. On vient de l'apprendre il y a quelques secondes.
Europe 1.
Le mot liberté, oui, me fait plaisir. Liberté de parler, de critiquer, de s'engueuler même entre écrivains. Je pense que ça paraît moderne encore aujourd'hui parce que c'était naturel. C'était tout simple. Il n'y avait pas de formule. Hein. Il y avait une formule de toute bête. 4 ou 5 écrivains autour d'une table basse. Oui. Apostrophe, c'est 75 à 90. Mm-hmm. Donc, c'est un moment de la télévision, c'est un moment de la littérature. Et tout ça, concentré, a fait une émission qui, aujourd'hui, à ma grande surprise, est devenue une référence.
Il était celui qu'on appelait quand un écrivain mourait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait tout et tout le monde. Il avait tout lu, du temps d'Apostrophe, dont vous avez reconnu le générique, du temps du Goncourt, dont Bernard Pivot a été le président pendant quelques années. Bonsoir Nicolas Carreau.
Bonsoir Pierre.
Bernard Pivot est mort aujourd'hui. Il avait 89 ans. Il était le chantre, en fait, des écrivains.
Et aussi, sans doute, l'incarnation de la lecture et des mots en France. Présentateur d'Apostrophe, bien sûr, de 75 à 90, puis bouillon de culture. Mais Bernard Pivot commence sa carrière très tôt. À Lyon d'abord, puis à Paris, au Figaro littéraire. Il n'a que 23 ans, c'est à ce moment-là seulement qu'il commence à lire, comme il le confiait en 1996 sur Europe 1. Il confiait que, en fait, il s'était mis à lire immédiatement après le bac, mais qu'avant, il n'avait quasiment jamais lu, qu'il était devenu un boulimique pour pouvoir rattraper le temps perdu.
Je n'ai pas été un très bon lecteur jusqu'au bac et même encore après le bac. Et j'ai découvert le plaisir de la lecture quand j'ai été obligé de lire entrant au Figaro littéraire comme jeune rédacteur. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu compenses, il faut que tu rattrapes le temps perdu, il faut que tu lises tout ce que tu n'as pas lu pendant 5 ou 10 ans. Et à ce moment-là, j'ai passé, il faut bien dire, des nuits et des nuits à lire ce que je n'avais pas encore lu.
En 74, il crée le magazine Lire avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis il tiendra des chroniques au Point et au Journal du Dimanche. D'ailleurs, il ne se disait pas critique ou chroniqueur, mais journaliste littéraire. Il y tenait, il trouvait ça plus neutre. Ça, c'est pour la carrière, donc purement journalistique. Mais Bernard Pivot a aussi animé les Dico d'Or, bien sûr, la dictée de la télé, vous savez, journaliste, amoureux des mots, amoureux du vin aussi. Il a d'ailleurs publié un dictionnaire amoureux du vin. Comme pour faire le lien entre ces deux passions, il a publié une vingtaine de livres en tout.
Nicolas Carreau, alors critique littéraire ou journaliste littéraire
d'Europe 1? Moi aussi, je me suis inspiré de lui, je dis journaliste littéraire.
Alors journaliste littéraire d'Europe 1, écrivain lui-même, faut lire ses livres, Nicolas Carreau, ils sont passionnants. On se retrouve tout à l'heure un peu avant 20h, et puis Nicolas, vous le retrouvez également tous les matins dans le Club Culture d'Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko. L'annonce de sa venue était déjà en soi un événement, le fait d'être arrivé, d'avoir par l'occasion, par sa présence, bloqué la circulation sur la moitié de la capitale en dit long aussi. Xi Jinping est à Paris, il a été reçu par Emmanuel Macron et tous deux s'expriment ou viennent de s'exprimer à l'Élysée, Jacques Serret.
Oui, les deux dirigeants ont pris place il y a quelques minutes dans le jardin d'hiver du palais de l'Élysée, assis devant un pupitre pour chacun leur tour faire une déclaration à la presse après leurs échanges en tête-à-tête. Déclaration et non pas conférence de presse, donc pas de questions. Et c'est sur le dossier ukrainien qu'Emmanuel Macron a montré une certaine satisfaction. Voilà ce qu'il a notamment déclaré après avoir rappelé les liens anciens entre la Chine et la Russie.
Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage.
La guerre en Ukraine, mais aussi le conflit entre le Hamas et Israël, pour toutes ces zones meurtrières, les Jeux Olympiques pourraient être l'occasion d'une trêve. C'est ce dont ont discuté les deux hommes.
Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir.
Des propos repris à l'instant par Xi Jinping. La Chine et la France appellent à une trêve à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, a insisté le président chinois. Xi Jinping qui vient de quitter le palais mais qui sera de retour un peu plus tard dans la soirée pour le dîner d'État. Emmanuel Macron lui a déjà offert du cognac au centre également d'intenses négociations dans la guerre commerciale, cette fois entre la Chine et l'Union Européenne.
Eh ben, ça promet, ce sera pour après le dîner. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et voilà que François-Xavier Bellamy porte plainte après avoir fait l'objet d'une tentative de cyberattaque. La tête de liste LR pour les élections européennes serait victime de hackers, tenez-vous bien, proches du régime chinois. Et c'est le FBI qui l'aurait directement alerté. Alexandre Chauveau, l'attaque aurait eu lieu il y a 3 ans. C'était au moment des débats au Parlement européen sur l'interdiction des ventes de voitures thermiques à partir de 2035.
Oui, absolument, mesure à laquelle François-Xavier Bellamy s'est toujours opposé car, estime-t-il, elle représente un cadeau fait à l'industrie automobile chinoise. Alors cette cyberattaque proviendrait d'un groupe de hackers baptisé APT-31 que plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, considèrent effectivement liés au gouvernement chinois. Plusieurs députés et sénateurs français auraient également été ciblés, tous membres de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, l'AIPAC, une instance créée en 2020 pour agir sur différents sujets liés à Pékin. Réaction il y a quelques minutes de François-Xavier Bellamy qui appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face aux ingérences étrangères.
Je pense qu'il faut être lucide sur le fait que nos institutions sont ciblées par des efforts d'ingérence structurés, organisés, déterminés. Et nous avons le devoir d'ouvrir les yeux sur cette situation, faute de quoi nous risquons de laisser nos démocraties vulnérables dans le monde de plus en plus offensif face auquel nous sommes confrontés.
Alors vous en parliez il y a quelques instants, ces révélations interviennent en pleine visite de Xi Jinping en France et François-Xavier Bellamy demande ainsi à Emmanuel Macron de mettre ces questions d'ingérence au cœur de ses discussions avec son homologue chinois.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et justement en matière de voitures, qu'elles soient électriques ou pas électriques, 800 000 véhicules électriques vendus par an d'ici 2027, c'est bien l'objectif que s'est fixé la filière automobile réunie ce matin autour de Bruno Le Maire à Bercy. Il va falloir accélérer sacrément d'ailleurs, car cela revient à multiplier les ventes par 3 en seulement 4 ans. Comment la France compte-t-elle s'y prendre, Baptiste Morin ?
En décembre dernier, Berlin a supprimé son bonus écologique et subitement, les ventes de véhicules électriques ont plongé. Bercy ne veut surtout pas commettre la même erreur, alors même si les finances sont dans le rouge, pas question de toucher au bonus écologique ou au leasing social en 2025, même s'il reste à savoir avec quels moyens. Ce matin, Bruno Le Maire n'a surtout pas voulu s'avancer.
Je n'anticipe pas sur les débats sur le montant de l'enveloppe et les conditions de cette enveloppe. C'est le principe du débat budgétaire. Le débat budgétaire ne doit pas être préempté par le ministre des Finances.
Ce que ne dit pas le ministre, c'est que si l'enveloppe n'augmente pas, mais qu'il doit y avoir toujours plus de bénéficiaires, alors l'aide finira forcément par baisser. Autre levier pour accélérer les ventes, de nouveaux modèles, la Citroën IC3, la Renault 5 électrique ou encore le Peugeot i3008, des voitures produites en Europe, parfois même en France. C'est le seul moyen désormais pour profiter encore du bonus à l'achat. D'ailleurs, les chiffres du marché automobile d'avril montrent les effets de ce nouveau barème. C'est simple, il n'y a plus une voiture électrique chinoise dans le top 10 des ventes.
Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Deux images au Proche-Orient en deux temps. D'abord, ces milliers de personnes fuyant parfois dans la panique à l'est de Rafah, l'armée israélienne ayant ordonné d'évacuer la zone. L'offensive de Tzal qui se précisait, Benjamin Netanyahu expliquant qu'il était nécessaire de détruire quatre bataillons restants de territoire de terroristes islamistes du Hamas. Et Joe Biden essayant de s'y opposer. Et puis, deuxième temps, ces scènes de joie qu'on apprend à l'instant et tire en l'air à Rafah après le oui du Hamas à un cessez-le-feu, puisque le mouvement terroriste a dit oui à un cessez-le-feu. La balle est désormais dans le camp des autorités israéliennes. Et puis l'université de Columbia à New York renonce à sa grande cérémonie de remise de diplôme le 15 mai prochain. C'est bien sûr une conséquence directe des événements récents des manifs pro-Gaza dans la prestigieuse université new-yorkaise. Gérald Darmanin part en guerre contre les frères musulmans. Cette idéologie islamiste infuse la société française. Selon une source au sein du gouvernement, l'objectif est d'instaurer un califat mondial dans lequel la loi de Dieu régit tous les aspects de la vie humaine. Et pour cela, William Molinier, ils tissent leur toile jusqu'au cœur des institutions européennes.
Dans plusieurs notes qu'Europe 1 s'est procurées, le renseignement français s'inquiète de l'entrisme des frères musulmans à Bruxelles, à travers des organisations qui se revendiquent indépendantes. Mais en réalité, ces structures sont noyautées par la confrérie islamique. C'est le cas du FEMISO, qui se présente comme porte-voix des jeunes musulmans en Europe. Il regroupe 33 organisations dans une vingtaine de pays. Sa présidente est une Française, Ania Chalal. Elle entend faire émerger des hauts potentiels fréristes, des enseignants, des médecins, des ingénieurs et même des élus pour diffuser, écrit le renseignement, la pensée frériste auprès des institutions et des fonctionnaires européens. Son principal combat est de cultiver l'antagonisme avec l'extrême droite. D'ailleurs, en coulisses, les frères musulmans se réjouissent de sa progression en France car cela leur permet de justifier leur concept d'islamophobie selon lequel Paris serait la capitale du racisme. Cette stratégie commence à porter ses fruits puisqu'il y a deux ans, le Conseil de l'Europe avait lancé une campagne assimilant le port du hijab à un symbole de liberté, avant d'être retiré une semaine plus tard après les nombreuses réactions de la scène politique et médiatique française.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Une agression contre un tableau, l'origine du monde de Courbet, tagué à la peinture rouge en début d'après-midi au centre Pompidou à Metz. Le tableau avait été prêté par le musée d'Orsay. Action organisée par l'artiste performeuse franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis, qui dit « On ne sépare pas la femme de l'artiste ».